vous présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre. Merveilleux Monsieur Bébé, production, mise en scène, Julien Jean-Pierre. Ouvre la porte de l'immeuble. Elle est entrée. L'allée de cet immeuble est tout aussi délabrée que l'autre. Elle va vers la porte de l'allée. L'ouvre. Et sort. Elle se trouve dans la rue. Une rue étroite et sombre. Elle tourne la rue. Et là, Elle entre dans un immeuble de 4 étages lépreux. Une fois dans l'allée, qui ressemble aux autres allées, tout aussi délabrées, elle va au fond de l'allée. Là, au fond de l'allée, elle ouvre une porte. Et se trouve dans une petite cour avec un petit arbre à bord gris. Au fond de la cour, il y a une maison, une petite maison sans âge ni style, de 2 étages. Il faut monter des marches pour accéder à la porte d'entrée. C'est ce que fait Judith, qui en a marre de ce parcours de combattant. Sonne à une petite porte. Petite porte de bois ordinaire. Au-dessus de la porte se trouve une lampe. Sur les côtés de la porte, il y a des fenêtres à volets de bois fermés. La porte s'est ouverte. C'est un vieux et grand mince monsieur, cheveux blancs habillés de tête osseuse, habillé d'un costume noir. Il lui dit « Bonjour ». Je viens pour le rendez-vous. Il lui dit, je sais, entrez. Elle entre, il ferme la porte. Il se trouve dans un minuscule couloir sombre. Il y a en face de la porte des escaliers étroits de bois. L'homme lui dit, veuillez me suivre. Il vous attend. Elle le suit. Il monte les escaliers. Au premier étage, il fume un long couloir sombre où il y a des portes. Il frappe à une porte. Entrez. L'homme entre. Elle revient. Entrez. Elle entre. La pièce est sombre. Elle est grande. On ne voit pas les extrémités de la pièce. On voit que le feu qui pétille dans une cheminée de pierre. Un homme est assis dans un fauteuil. Près de la cheminée, il est grand, mince, cheveux blancs, tête osseuse, yeux profonds, clairs, habillé d'une robe de chambre bordeaux. Il lui dit, approchez. Elle s'approche, lui demande, vous savez la chose. Elle lui donne le coffre rouge, le coffret rouge plutôt. Merci. Il ouvre et regarde, belle pièce. Asseyez-vous. Il lui montre un fauteuil qui est à côté du sien et s'y assoit. Il lui dit, cette regrettable affaire vous a permis de récupérer ceci. C'est très dommage pour lui. C'était un brave homme. Pourquoi se suicide comme ça? Il aurait pu se confier. Et ce jeune homme, elle lui dit, nous ne savons pas encore qui il est. C'est peut-être dangereux. Dès qu'on l'a trouvé, vous me le dites. Il faudra peut-être l'éliminer. Elle lui fait, ce serait facile Et puis, on risque de le retrouver facilement. On a le numéro de la voiture. Oui, bien sûr. Et où en sont vos affaires? Elle lui dit, pour le moment, on continue, quitte à changer le plan à la dernière minute. Pour ce qui est des recherches sur, disons, je tout, rien, à Lyon, ce n'est pas facile. On continue à chercher. Il y a une chose d'ennuyeux, c'est que l'on a perdu la trace de cette personne. Et si c'est lui, on est très ennuyé. Si le... si c'est lui le chercher, comment? L'homme lui dit, c'est peut-être une fausse piste. Elle lui fait, souhaitons-le, parce que ce serait embêtant, vu le programme que nous avons fait, tout ça pour rien, et le temps perdu pour l'autre. L'homme lui dit, remarquez, l'autre aussi est informé. Elle lui fait, oui, mais il est près de nous. Bien, faites comme si c'était lui. Et vous? Elle lui dit, j'avance petit à petit, c'est long. Il y a beaucoup à éliminer, mais on y arrive. Elle s'en est retournée chez elle. François a appris la découverte du corps de Stéphane dans le journal. Il a vu qu'on ne parlait pas de la voiture ni de lui. Il se dit qu'on a dû l'oublier. Les funérailles sont passées. Tous les groupes étaient présents. Même des membres du gouvernement. Il a été enterré à Bourg-la-Reine. La maison a été achetée par Franc Blanc, qui va en faire des bureaux pour lui. On va la démolir pour construire un immeuble de luxe. Les domestiques ont été embauchés par la maison Jeune Tout, par sa grande gentillesse. On leur a donné des placards, des emplois fictifs pour eux. On ne parle plus de l'affaire. Un autre vice-président a été nommé à la place de Stéphane. Encore à la campagne. Il a appris qu'il y avait un château dans le pays et qu'il appartenait aux Francs Blancs. Le pays est agréable. Les gens du village sont peut-être un peu brusques. Primaire, mais ça peut aller. Les gens du village sont peut-être un peu brusques, primaire, mais ça peut aller. Il est le jeune homme qui a une belle voiture. On pense qu'il est dans le pays pour des vacances. Un après-midi, en se promenant à pied, sur un chemin boisé, François voit arriver à lui deux jeunes gens. Ils sont habillés comme pour jouer au tennis, en blanc. L'un est blond, grand, mince, visage rond, petit nez, yeux bleus profonds, très distingué. Il semble avoir dans les 18 ans. L'autre jeune homme est aussi grand, mince, cheveux châtains qui ondulent. Il a un côté angelo, yeux dorés, lui aussi distingué. Lorsqu'il passe près d'eux, il ne sait pas pourquoi, mais il se sent très ému. Il a le cœur qui bat et a chaud. Le jeune homme blond lui dit « Bonjour. » François lui dit « Bonjour. » Au lieu de passer leur chemin, les deux garçons s'arrêtent et se mettent instinctivement devant lui. Le jeune homme lui demande « Vous êtes du coin ?»« Je passe quelques jours dans le pays. » Les garçons bruns lui demandent « Vous êtes de Paris ?»« Oui. » Comment le savez-vous? Je ne sais pas. Les Parisiens, ça se remarque. François lui dit. Vous, vous l'êtes aussi? De quel endroit? Le jeune homme brun lui dit. J'habite place de l'Étoile. François lui dit. Moi aussi, enfin, presque. Lorsque je suis à Paris, je vais à l'hôtel. L'hôtel Le Paris. Luxe, franc blanc. Justement, près de la place de l'Étoile. Le jeune blond lui demande « Et pourquoi vivez-vous à l'hôtel ?»« Parce que je n'ai pas encore trouvé un logement. C'est difficile de trouver quelque chose à Paris en ce moment. L'on démolit et l'on reconstruit plus lentement. » Le jeune blond lui dit « Oui, je sais, mais ça va changer. Moi, j'habite chez mes parents, avenue Velasquez, vers le parc Monceau. » Le jeune brun dit au jeune homme, Gilbert, il faudra peut-être rentrer, il est temps. Gilbert lui dit, oui, tu as raison, Julien, père va être furieux. Vous aimez les marches à pied? François lui dit, oui, un peu, mais j'ai une voiture, Le tourisme rouge. Je dis rouge parce qu'elle se voit beaucoup. Gilbert lui demande, à part la marche, qu'est-ce que vous aimez? François lui dit, j'aime bien danser, rire. Gilbert lui dit, justement, on organise une soirée. Enfin, mon père organise une soirée, mais ici, et comme ici, il y a très peu de gens, si vous voulez, vous pouvez venir, ce sera bien. Gilbert lui dit, Gilbert, laisse, il ne nous connaît pas. Gilbert lui dit, pourquoi? Qu'est-ce que ça peut faire? Il voit bien que nous sommes des garçons sympathiques et nous voyons bien que lui aussi est sympathique. Je m'appelle Gilbert Framblanc et lui, c'est Julien Sève. François est surpris et heureux. Il vient de faire la connaissance de Gilbert Framblanc et qui l'invite dès sa première rencontre à une soirée. Il lui dit, François Ducourt, vous j'accepte votre invitation. Gilbert lui dit, bien alors, vous logez où? À l'auberge du village. Je vous viendrai vous faire parvenir une carte d'invitation. Allez, au revoir. Et les deux garçons s'éloignent. François est heureux. Il s'en retourne à l'auberge. Entre dans l'auberge pour aller à sa chambre, se reposer un peu. Mais dès qu'il est entré, deux gendarmes sont devant lui. Un gendarme lui dit, monsieur, vous êtes détenteur de la voiture de tourisme rouge, la Juntou 2X32, immatriculée 1653 CY75. Oui, monsieur, vous devez nous suivre. François se dit qu'il est coincé et il sort de l'auberge. Les deux gendarmes le font entrer dans une voiture pour le mener à la gendarmerie. La gendarmerie est à 2 km du village. Maison au fond d'une cour. Elle a 3 étages. Elle est au début du pays. Ses propres foreries. Ils sortent de voiture. Et on va le mener dans le bureau du gendarme. On le fait entrer dans une pièce qui est le hall d'accueil. Mur blanc, clair, sol carrelé. À la banque se trouve un gendarme en uniforme, les grandes mains, cheveux chantelles à 25 ans. Les deux gendarmes mènent François à la banque. L'un des deux dit, c'est la personne qui a la voiture de l'affaire Blanchard. Le gendarme en banque lui dit, bien, je préviens le chef. Il prend son téléphone, fait un numéro. Allô, chef, il y a ici une personne pour l'affaire Blanchard, celui qui détient la voiture. Bien. Il dit aux deux gendarmes, pouvez le mener au bureau du chef. Et l'on mène à l'étage le pauvre François. On lui fait monter des escaliers carrelés. François est triste, très triste. Il a raté de peu Franblanc. Juste où Franblanc l'invite à une soirée, il est arrêté. Et en plus, pour son malheur, Franblanc va savoir qu'il est arrêté et inculpé dans une affaire et peut-être de meurtre, de vol. Et aussi, hélas, de gigolo. Plus aucune famille ne voudra de lui, un gigolo et un meurtrier. Ils arrivent au premier étage. Le gendarme frappe à une porte. Entrez. Ils entrent. Puis ressort et fait rentrer François. La pièce est grande, claire, mur blanc, porte-fenêtre sans rideau, meuble moderne en métal, beige. Il y a même des plantes vertes. Le bureau a une porte-fenêtre et donne sur un petit balcon fleuri. Il y a à son bureau un gendarme, grand, mince, cheveux courts, blonds, tête ronde, sympathique dans les 30 ans. Il dit « Faites asseoir, monsieur. » On fait asseoir François en face du bureau. Le gendarme lui dit « Monsieur, je vous ai fait venir parce que vous êtes en possession d'une voiture qui appartenait à une personne qui a été trouvée morte d'un coup de poignard. D'après les expertises, il se serait suicidé. Mais on ne sait jamais. Vous allez donner votre carte, s'il vous plaît. » François lui tend sa carte. « Votre pouce. » Mettez-le sur l'écran. Il la met sur l'écran. Puis, le gendarme voit son nom, son adresse, différentes, ses études, voit qu'il ne travaille pas et qu'il n'a jamais travaillé, mais qu'il a plusieurs affaires louches. En France et en Amérique, mais que ces affaires ont été étouffées par le ministre de la Justice. Il se dit que ça doit être assez compliqué tout ça. Il voit qu'en Amérique, une de ces affaires a été étouffée pour des raisons de valises diplomatiques. Il se dit qu'il a peut-être participé à des affaires d'espionnage. Il voit aussi que c'est un membre Franblanc qui lui a offert sa première carte. Une carte populaire, mais une carte offerte par Franblanc. Franblanc, ministre de la Justice. Intouchable. Et pourtant issu d'un milieu très modeste dont les parents ont fait de la prison. Tiens, François se demande pourquoi il met tant de temps à lire son dossier. Le gendarme lui dit « Bien, pouvez-vous me dire pourquoi vous êtes possesseur de cette voiture que nous avons amenée ici ? D'ailleurs, si votre affaire est close, vous me la rendrez. » Alors, François lui dit « Parce que M. Blanchard me l'a offerte. » Le gendarme lui demande « Pour cadeau ? Mais pourquoi n'est-elle pas à votre nom ?» On lui dit, parce qu'il a oublié de le faire, mais vous pouvez faire une enquête chez les domestiques, ils vous le diront. Le gendarme dit, bien, nous verrons. Sans être indiscret, pourquoi vous a-t-il offert ce beau cadeau ? François lui dit, parce qu'il m'aimait bien.
Vous viviez ensemble?
Oui, si l'on veut.
Comment? En concubinage?
Non, pas du tout, comme ami.
Nous verrons. Et de quoi vivez-vous?
François lui dit, je cherche du travail.
Quel genre de travail?
N'importe le quoi.
Voilà.
Tout ce qu'ils disent est enregistré automatiquement par l'ordinateur qui décrypte l'oral par l'écrit automatiquement. Il comprend le langage oral et ceci en plusieurs langues. Plus la peine d'écrire, l'on dicte où l'on parle. Le gendarme lui dit,
puisque vous étiez si ami avec M. Blanchard, pourquoi avez-vous disparu lorsqu'il s'est donné la mort?
François lui dit, j'ai eu de la peine.
Et j'ai aussi eu peur. Alors, je suis parti pour cacher mon chagrin. J'avais peur aussi, c'est de que les gens me posent des questions indiscrètes. Deux hommes qui vivent ensemble, ça semble louche. Surtout si un des deux hommes est plus jeune, ça fait ambigu et les gens pensent à des choses. C'est pour ça que je suis parti.
Dit.
Vous avez vu pour la dernière fois Monsieur Blanchard, quand?
François se dit là que c'est une question piège.
Alors, que dire?
Dit, la dernière fois que je l'ai vu, c'était avant son départ pour le Népal.
Et le soir du drame?
Ce soir-là, comme je savais qu'il allait entrer très tard et même très tôt, comme j'aime rouler, j'ai pris ma voiture et j'ai fait un tour pendant des heures. Lorsque le matin, je suis revenu, j'ai vu les voitures de police. Surpris, j'ai demandé à un badaud. Lorsque j'ai appris que mon ami était mort, j'ai paniqué. J'ai eu peur de voir ce monde. Alors, je suis retourné à la voiture et je suis parti. J'ai roulé, roulé, roulé. Effondré, perdu. J'ai eu un chagrin terrible. Je ne sais pas combien de temps j'ai roulé. Et je me suis retrouvé ici, épuisé, affamé. Ce coin agréable m'a détendu. Je me suis retrouvé sans savoir ce que je deviendrais plus tard. Ici. Voilà. Le gendarme lui dit.
Vous n'avez pas cherché à savoir plus sur la mort de votre ami?
Il lui répond. Non. Pour moi, la nouvelle terrible, c'était sa mort. Ça me suffisait. Je n'ai même pas pensé à savoir si c'était assassiné ou suicidé. Je n'ai pensé qu'il était mort et c'est tout. Bien sûr, les journaux m'ont donné des nouvelles, mais ce n'était que des nouvelles pour moi. La nouvelle, c'était sa mort.
Le gendarme lui dit. Vous n'avez même pas cherché à savoir pourquoi il s'est suicidé? Parce qu'il aurait pu faire ce geste à cause de vous?
Non. Je savais qu'il était d'une nature anxieuse. Il avait peur de vieillir. Et puis, il était surmené. Il avait trop de travail.
Bien. Donc, la conscience tranquille. Et vous avez l'intention de rester ici combien de temps?
Je ne sais pas.
Pas de projet d'avenir?
Non. J'ai encore la peine de sa perte.
Il lui demande, vous avez une bonne somme sur votre compte. D'où vient cet argent?
François lui dit,
d'Amérique. J'ai fait des affaires là-bas. Ce n'est pas marqué sur votre compte quelles affaires. Le cinéma, je voulais être producteur. Vous savez, dans ce métier, il n'y a pas de règles. Donc, pas de reçu, de compte. Le gendarme lui dit, je vois. Je vois la chose. Et toutes vos affaires, parce que vous en avez pas mal, et de très graves, je ne veux pas vous en parler, parce que c'est, disons, sur la discrétion du ministre de la Justice. Mais quelles affaires ? François lui dit, le hasard m'a mis dans des conditions particulières, mais je suis innocent. Bien. Vous connaissez le franc blanc ? Ande, comment le savez-vous ? Votre première carte a été faite par un membre du groupe. François lui dit, je viens d'être invité à une soirée chez eux, justement aujourd'hui. Gendarme lui demande, et vous allez y aller ? Oui. Votre peine. On peut avoir de la peine et continuer à vivre. Je ne peux pas refuser à franc blanc. Le gendarme lui dit, bien, ça suffit. Vous savez que tout a été enregistré et écrit. Vous n'avez rien à ajouter ? Non, la voiture est un cadeau, rien de plus. Bien, je vais vous garder un moment. Votre affaire est, disons, assez compliquée. Vous avez un dossier chargé. Je dois me renseigner. Lui dit, je comprends. Bon, je vais vous mettre dans une pièce. Je vais vous faire mettre dans une pièce en attendant. Vous mettrez le prévenu dans la pièce du bas, qui ne voit personne. Donnez-lui à manger et à boire. Bien, chef. Suivez-nous, monsieur. Eh ? François suit les gendarmes. Ils vont le mettre dans une pièce du rez-de-chaussée. Ils le font entrer dans une pièce claire. Fenêtre avec des barreaux, mur blanc, un lit accroché à terre d'hôpital, chaises, table, les meubles sont blancs, il y a un coin douche, lavabo et WC. C'est très propre. Le gendarme lui dit, restez ici, on va vous apporter à manger. Poulet, thon ou jambon ? Poulet, jus de pomme, vin, eau, jus de pomme. Bien. On le laisse. François se dit qu'il va manquer de chance. Il va sûrement rater la soirée de flambant. Et puis il risque peut-être d'être arrêté. Ça fait bien, tiens. Il s'assoit à table. Puis se dit, on va sûrement me relâcher. Je n'ai rien fait. Et puis le ministre va leur dire d'annuler la chose. On frappe à la porte. Entrez. Entre un gendarme avec un plateau qui dépose sur la table. Il y a du poulet, de la salade, yaourt, du pain, puis couteau, fourchette simple, etc. Gendarme sort de la pièce. Pendant ce temps, le gendarme chef se dit, bon, cette affaire me semble bien compliqué. J'ai téléphoné à Paris, au commissaire qui s'occupe de cette affaire. C'est à lui de voir ça. Moi, j'ai fait mon travail. Et j'ai même fait le sien, puisque les gendarmes sont des nuls, d'après eux. Eh bien, qu'ils se débrouillent. Il prend son téléphone et fait un numéro. Il a le commissaire qui s'occupe de cette affaire. Il lui dit, nous avons retrouvé la voiture qui a acheté M. Blanchard. Elle est à un dénommé M. Ducourt, qu'il a connu très bien. M. Blanchard et vivait ensemble. Malheureusement, cette personne a un casier assez rempli. J'aimerais vous le passer, comme c'est vous qui vous occupez de cette affaire. Oui, nous ne sommes que la gendarmerie, comme vous dites. Alors, nous n'allons pas faire votre travail. Nous, nous avons en plus les blessés de la route et des affaires brumeuses France profonde. Vous, c'est la ville et Paris. La télé fait des séries de super flics, pas de super gendarmes. Alors, oui, bien sûr, non. Je vous rends votre dossier. Lavez votre linge sale entre vous. C'est une affaire parisienne. Allez, je vous l'envoie de suite. Bon courage, chers collègues. Chers collègues. Le commissaire à Paris se dit merci. Il a fait exprès de m'envoyer une affaire impossible, ce salaud. Un gendarme vient dire à François qu'il est rapatrié pour retourner à Paris. Il va à Paris avec deux gendarmes. Il se dit qu'il va être vu par tout le monde. Entouré de deux gendarmes, il est perdu. On le sort de la gendarmerie et en voiture, on le mène à la gare. Il demande, et ma voiture? Le gendarme lui dit, elle sera rapatriée aussi. Votre affaire est une affaire parisienne. On n'a pas à s'en occuper, nous. Nous ne sommes que des gendarmes, nous. Des personnages pour rire à la Bourville. Des flics, c'est du gabin. Arrivé à la gare, petite gare de campagne, un gendarme va chercher les billets. L'autre qui reste près de François lui dit, vous avez de la chance, vous voyagez gratis. Nous, lorsqu'on part en vacances, on n'a que 50% de réduction. La police 60% et ils partent en vacances à été. Nous, c'est en automne, à cause de la circulation. L'autre gendarme vient avec les billets. Il dit, le train, c'est pour dans 10 minutes. Tu as le temps, c'est de prendre des sandwichs et de la boisson. Le gendarme demande à François, qu'est-ce que vous voulez comme sandwich? François lui dit, ce que vous voulez. Alors du jambon. Ils sont dans un compartiment de train, vieux train à vapeur. choix est entre les deux gendarmes. Il y a en face d'eux une grosse femme, cheveux gris, habillée de noir, avec un poignard en osier. À côté d'elle, un garçon de 10 ans, blond, en short gris et chemise blanche. Il est mince et mignon. Et un gros homme, moustachu, gris, habillé en paysan, pantalon et veste verte, chemise à carreaux rouge et marron, brodequin noir. Le train se met en route. C'est un vieux train à vapeur, comme tous les trains que vous avez dans ces histoires. Et vous savez pourquoi. La femme demande au gendarme, « Qu'est-ce qu'il a fait ce jeune homme ?» Le gendarme lui dit, « Il va être interrogé parce que son ami s'est suicidé. Il a l'air bien gentil. » François lui sourit. Je me demande, « Et vous allez où ?» À Paris. L'homme lui dit, c'est loin. Eh bien, encore un Parisien dans notre région qui est arrêté par la police. On ne peut pas être tranquille chez nous. Les Parisiens, il faut s'en méfier. Mon fils a foutu le camp à Paris. Là-bas, il fait du transfert. Celui-là, il a bien l'air propre. Et on voit qu'il n'a jamais rien fait. Mais, comme tous ces Parisiens, soit on commence à en avoir assez de discussions, la femme dit, j'ai un de mes neveux qui faisait souvent des fugues pour aller à Paris. On le ramenait comme ça, entre deux gendarmes. Quel malheur pour la famille. Et lui, il a de la famille. Je ne sais pas. Oh, un enfant trouvé, le pauvre. L'homme dit, moi, j'ai ma nièce qui habite dans le Beaujolais. Eh bien, elle me dit qu'à Lyon, c'est pire qu'à Paris. Ils ont une radio bizarre, radio C. La famille dit, il est l'heure, vous voulez manger quelque chose? Elle ouvre son panier à provision. Le gendarme dit, non, nous avons ce qu'il nous faut, on a prévu des sandwichs. Et le gendarme fait la distribution. L'homme dit, du manger de Parisien, et vous vous en occupez bien. La femme donne un morceau de poulet au garçon. Elle en prend un. Le paysan prend de sa poche un morceau de pain avec du pâté. Puis, ils sont descendus au prochain arrêt. Le voyage se passe sans histoire. Les gendarmes et François sympathisent. Ils leur racontent ce qui s'est passé en Amérique, ce qui les a fait bien rire. Et on dit bien fait pour eux. Et ils arrivent à Paris épuisés. C'est le soir. sortent de la gare. Et ont pris un taxi. Avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, Merveilleux Monsieur Bébé. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre.